sœurs et chers amis, chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre magnifique série concernant l'amour de Dieu. Les deux thèmes que je vais vous donner ce matin sont premièrement l'amour. C'est la lumière qui maintient la vie. Et deuxièmement, l'amour pleure. La lumière que Dieu a manifestée par sa sainte parole au début de son œuvre de création et qui a rempli l'espace tout entier du rayonnement de la gloire divine, n'est pas seulement la lumière qui crée, mais c'est aussi celle qui maintient la vie. Si la lumière de Dieu quittait notre monde, tout serait détruit en un instant. Cette lumière et cette gloire de Dieu ne sont pas visibles à l'œil humain parce que l'homme est aveugle depuis la chute. Nous sommes partiellement aveugles. Il y a un voile entre nous et le monde spirituel. Nos yeux sont ouverts, plutôt, ils devraient rester ouverts, mais sans avoir un voile, un nuage qui empêche de voir, alors on pourrait dire que nos yeux sont couverts d'écailles. Il faut donc les oindre, et cela d'un collyre, pour que nous puissions voir ce que un jour nous verrons. Nous ne pouvons percevoir que les éléments naturels et matériels, car nous vivons dans le domaine des sens, sauf de temps à autre, lorsque Dieu lève ce fameux voile et nous donne alors ce que nous appelons des visions. Et c'est là que nous voyons des anges, mais également des démons. Nous voyons les saints et nous voyons même notre demeure céleste. La souffrance de l'enfer et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous est également montré. Il existe donc autour de nous, constamment, un monde de l'esprit tout à fait réel qu'on ne peut saisir qu'avec nos yeux spirituels et non avec nos yeux de chair. Ceci est aussi vrai de notre oui. Pour entendre, il y a des sons, et tout le monde le sait, que nos oreilles naturelles ne peuvent saisir. Il existe des notes extrêmement hautes dans la gamme, c'est-à-dire des vibrations très rapides qui échappent à notre oreille humaine, et nous ne pouvons donc en entendre le son. Même le chien, il est connu. Il peut entendre des sons qui sont hors de portée de notre possibilité d'entendre. La musique céleste, elle est continuellement, on peut bien le dire, dans l'air. Et il arrive même, à l'occasion, que des âmes arrivent à l'entendre. La voix de mon Seigneur parle en tout temps, mais ce n'est que de temps à autre que mon oreille est assez vive pour l'entendre. Donc Dieu est en train de visiter ce monde une nouvelle fois. D'étranges manifestations commencent à avoir lieu. Récemment, Paul Harvey, le commentateur bien connu de Nouvelles religieuses, disait « Eh bien, c'est encore arrivé récemment. » En effet, un chauffeur a pris un autostoppeur et lui a dit « S'il vous plaît, attachez votre ceinture de sécurité. » Celui-ci a mis sa ceinture, s'est tourné vers le conducteur et lui a dit « Savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt ?» L'automobiliste a eu un choc. Aussi, on le comprend, il s'est retourné vers son passager pour lui répondre. Mais voilà, l'homme avait disparu. La voiture roulait à près de 100 km/h. La portière n'avait pas été ouverte. La ceinture de sécurité, elle était toujours attachée. Mais le passager avait disparu. Qui était-il? Un ange ou un saint glorifié revenu pour donner un message de la part de Dieu? Je dois vous avertir, nous avons des visiteurs d'un autre monde. Et cela n'a rien à faire avec des martiens, croyez-moi. Nous ne les voyons pas toujours parce que notre vision est partielle. Mais Dieu est en train d'ôter notre aveuglement. Il dit à l'église de Laodicée, qui n'avait pas d'amour parfait, d'acheter de lui un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Repoussons donc les ténèbres. Et pendant plus de 6000 ans, le monde a été plongé dans l'obscurité, mais une lumière nouvelle de Dieu brille de plus en plus fort, et un de ces jours, elle détruira à jamais les ténèbres. Alléluia! Et, chers amis, nous sommes appelés à faire partie de cette lumière-là. Ésaïe, le grand prophète du millénium, nous donne cet ordre suivant. Il dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue en toi. Et les nations marcheront à la lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. » Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Donc, la gloire de Dieu se lève sur vous. Elle est sur vous parce qu'elle est en vous. Rappelez-vous, le Seigneur a promis de nous donner l'étoile du matin. Cela veut dire que nous allons devenir cette belle et brillante étoile du matin qui se lève pour annoncer derrière moi vient le soleil. La première chose qui doit arriver, et cela avant la venue personnelle de Jésus-Christ, c'est que ces enfants de gloire commencent à briller. et ceux qui appartiennent à Christ, ils sont déjà là. Oui, ils disent au monde que le soleil de la justice vient et que la guérison est dans ses ailes. La rédemption, le salut et la délivrance pour toute la création de Dieu s'accompliront au cours de cette génération. Dieu va donc achever l'œuvre glorieuse de création qu'il a commencée dans ce monde, et il va l'achever en nous. Il y a encore une chose que nous avons perdue. Outre la vue et l'ouïe, donc la faculté d'entendre, nous avons perdu beaucoup de notre mémoire. Nous ne nous souvenons même pas de toute notre vie sur cette planète. Du reste, certains de nous ne se rappellent même pas ce qu'ils ont mangé ou dîné il y a 3 jours. Et moi non plus. Croyez-moi, du reste, sur le moment, j'ai pas compris, j'ai pas su répondre. J'ai seulement trouvé ce que j'avais mangé après avoir réfléchi environ 5 minutes. Et ça m'est revenu. Croyez-moi, nul de nous ne se souvient même du temps qu'il a passé ou qu'elle a passé dans le ventre de notre mère. Pourtant, la plupart de nous y sommes restés quand même 9 mois. Cela ne veut pas dire que nous n'existons pas. D'abord nourrisson, puis petit enfant, nous sommes développés jour après jour et avons commencé à parler, marcher et communiquer. Nos sens étaient si vifs qu'à l'âge de 3 ans, nous aurions pu apprendre 3 langues étrangères parfaitement. Et pourtant, nous ne pouvons pratiquement rien nous rappeler de ces 3 premières années de vie. Dieu a dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Où étais-tu, bien-aimé ? Je crois qu'un jour, quand la lumière brillera et éclairera nos intelligences, nous nous rappellerons. Un jour, Dieu, par sa lumière, libérera notre mémoire et nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est cela qui nous servira de guide. Par sa lumière, nous pourrons régner sur la terre. L'apôtre Paul disait, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Oh là là, j'en crois pas mes oreilles. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. L'apôtre dit aussi que nous pouvons parler la langue des anges sous l'onction du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Où avons-nous reçu cette capacité de parler une langue que nous n'avions pas entendue depuis que nous avons quitté le ciel? Se pourrait-il que le renouveau de vie que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit soit une partie de la glorieuse révélation du millénium qui nous attend? Je crois que oui. Et c'est aussi pour cela que beaucoup ont des visions lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Beaucoup recherchent les langues, c'est vrai, et elles sont bonnes. Mais voyez-vous, nous oublions quelque chose d'important. Nous avons surtout besoin de chercher Dieu. Quand nous recevons la pleine puissance du Saint-Esprit, elle touchera plus que simplement notre langue. Elle touchera nos yeux, nos oreilles et même notre mémoire. Fini le Alzheimer. Elle descendra dans les profondeurs de notre être. Sur le champ missionnaire, on a même vu le Saint-Esprit se répandre puissamment. Du reste, il est vrai, des enfants ont été enlevés dans les lieux célestes. Cela a existé vraiment. Et ils ont vu des anges, ont parlé avec Jésus et ont visité leur demeure céleste. La véritable visitation de Dieu aura une telle force qu'elle balayera les réserves et les traditions antérieures qui ont aveuglé, assourdi et endormi notre entendement spirituel. Voyez-vous? Elle touchera également notre cœur, âme et esprit. En plus de la vue, l'ouïe, notre possibilité d'entendre, ainsi que la mémoire. Là, nous avons également, en quelque sorte, perdu l'amour. Nous ne pouvons pas trouver notre prochain dans l'esprit, et c'est vrai, et nous jugeons souvent sans pitié ni compassion. Ne jugeons jamais ou ne parlons jamais de quelqu'un, qui que ce soit, croyant ou donc sauvé ou pas, derrière son dos. Et c'est pour cela qu'il y a si peu d'amour dans l'Église aujourd'hui. Les communautés sont pleines de critiques, de haine, de querelles, de divisions que nous dissimulons de surcroît sous un manteau d'hypocrisie en tenant les autres responsables. Nous pensons nous-mêmes n'avoir aucun tort. Nous prétendons de plaire à Dieu, et même si nous ne sommes pas aussi bons que nous pourrions l'être, il nous aime tels que nous sommes. Nous sommes devenus des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Il n'y a pas de lumière en nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'amour. Nous sommes devenus des enfants de ténèbres. Il y a beaucoup d'hypocrites, mais il y a peu qui aiment. Le monde manque de témoins parce qu'il n'y en a pas assez qui aiment. Ce n'est pas davantage de missionnaires, de prédicateurs ou évangélistes dont nous avons vraiment besoin, mais nous avons besoin de gens qui aiment. Nous n'avons pas pu attirer les pécheurs parce qu'il faut de l'amour pour cela et nous n'en avons souvent pas. Mais nous allons en avoir. Ésaïe dit, la gloire de Dieu sera vue sur nous. C'est alors que les nations se tourneront vers notre lumière. Saint Paul a dit, il a dit quelque chose qui pourrait sembler prétentieux. Il a dit, car le Seigneur nous a commandé ainsi. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, et cela afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Oui, Dieu nous a choisis pour être des lumières qui apportent le salut à toute la terre. C'est ce que fait la lumière divine. Elle apportera le salut au monde entier en ces temps de la fin. Nous y allons, croyez-moi, nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce. Et si nous ne voulons pas de cette lumière, eh bien nous n'obéissons pas à notre appel, ni ne l'accomplissons. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 15, l'apôtre écrit « Afin que vous soyez sans reproche et purs, c'est-à-dire des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans ce monde. » Nous voyons donc là que les enfants de Dieu sont les lumières du monde, et le seul moyen d'y parvenir est d'être sans tache. Et voyons, comment être irrépréhensible si nous n'avons pas d'amour? L'amour est l'accomplissement de toutes les lois. Dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul déclare « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous marchez comme des enfants de lumière. » Il continue en citant quelques fruits que nous devrions produire si nous sommes véritablement des enfants de lumière, tels que avoir la bonté, la justice et la vérité. Ésaïe, chapitre 25, verset 3, nous dit « C'est pourquoi le peuple fort te glorifiera, la cité des nations terribles te craindra. Quand Dieu glorifiera ses élus, il les revêtira d'une telle force que les nations terribles, le mot terrible se trouve donc dans ce verset, eh bien, ils vont les craindre. Et au verset 7, toujours de Ésaïe, chapitre 25, n'est-ce pas? Il ajoute, « Et il détruira en cette montagne la face du voile, ce fameux voile qui nous empêche, qui couvre tous les peuples, et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. » Gloire à Dieu! Cela veut dire le voile de nos yeux, cela veut dire l'insensibilité de nos oreilles disparaîtront, et cela au jour de notre glorification. Alléluia. Et le verset 8, toujours Ésaïe 25, résume la victoire finale. Il dit que il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple et de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Oh, quel glorieux lendemain va nous attendre, comme mon cœur et mon âme désirent vraiment entrer dans ce jour-là. Les choses anciennes disparaîtront et toutes choses deviendront nouvelles. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, nous avons enfanté du vent, nous n'avons pas opéré le salut du pays et les habitants du monde ne sont pas tombés, mais quelque chose va se passer. Les enfants de Dieu, qui sont le peuple glorieux, fort et loin d'amour, ces enfants-là vont se lever. Alors, tes morts, nous est-il dit, tes morts vivront, et les corps morts se lèveront ou se relèveront. Réveillez-vous donc et exultez avec un chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car la rosée et la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors tous les trépassés. Ésaïe, chapitre 26, versets 18 et 19. Deuxièmement, nous avons l'amour qui pleure. L'amour pleure. En effet, si vous vérifiez Saint Jean, chapitre 11, verset 35, là, il est montré que Jésus pleura. Comme il est étrange que l'un des plus courts versets de la Bible, car il est vraiment très très court, parle d'un des plus poignants messages. Deux mots seulement se trouvent dans Saint Jean, chapitre 11, verset 35. Mais ces deux mots forment une phrase complète. Elle est si brève qu'on pourrait facilement l'ignorer. Mais le lecteur attentif y verra comme la trace d'un éclair dans une nuit sombre, ou, si vous voulez, la traîne lumineuse d'une étoile filante et qui nous montre que Jésus pleura. Voyez-vous, Jésus était toujours suivi d'une grande foule assez dense. Il avait de nombreux détracteurs, il n'avait pas que des amis. Il avait, bien sûr, de vrais amis, heureusement, pour l'accueillir chez eux, par exemple. Mais il n'en avait pas beaucoup. Quelques jours avant le fameux drame, il avait reçu un message. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Voici celui que tu aimes est malade. Et il avait immédiatement su que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Il pouvait se reposer sur cette certitude-là. Voyez-vous, quand vous savez quelque chose, eh bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous encourage à croire, car vous êtes au-delà de la croyance. Savoir est beaucoup plus fort que simplement croire, parce qu'il savait et il termina le travail qu'il était en train de faire, puis il se rendit à Béthanie. Dès que Marthe entendit dire que Jésus arrivait, elle sortit à sa rencontre. Ensuite, après lui avoir parlé, elle rentra et elle dit secrètement à Marie que le maître était là et qu'il l'appelait. Une grande foule s'était formée autour de la maison ce jour-là et ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau. Ils voulaient tous l'accompagner. Et quand Jésus regarda autour de lui et qu'il a pu voir tous ces gens, il sonda leur cœur directement. Beaucoup étaient des membres de la famille, d'autres étaient des voisins ou des amis. Il y avait là aussi, bien entendu, comme toujours, quelques curieux, oisifs, qui cherchaient à savoir ce qui se passait. Quelques détracteurs étaient également présents. En effet, on trouve toutes sortes de gens dans une foule. Et comment ? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ils pouvaient voir leur chagrin, car certains étaient absolument sincères. Ils avaient un réel chagrin. Même, ils pleuraient la mort d'un homme. Jésus ne pleurait pas pour Lazare, bien que celui-ci soit mort. Pourquoi ? Parce que il savait où Lazare était. Il savait. Et cela en avait fait un ami de Dieu. Mais Jésus voyait aussi la peine dans le cœur de tous ceux que Lazare avait vraiment aimés. Il voyait la confusion dans le cœur de Marie, et cela à cause des paroles qu'il lui avait dites un peu plus tôt. Il se rappelait ces mots. Rappelez-vous, Maître, si tu avais été ici, eh bien mon frère ne serait pas mort. Jamais. Il savait qu'elle doutait en quelque sorte de son amour. Oui, Jésus a pleuré, mais contrairement à ce que nous pouvons penser, il n'a pas pleuré pour Lazare. Il pleurait pour les autres, les Juifs qui le voyaient pleurer. Ils ont dit, voyez un peu comme il l'aimait. Ils ne savaient pas qu'il pleurait pour eux et non pas pour Lazare. Il pleurait à cause des multitudes de gens qui avaient vécu des années et des siècles dans l'incrédulité, parce que la malédiction du péché avait apporté la mort sur toutes les générations depuis celle d'Adam. L'amour qu'il avait dans le cœur, cet amour s'adressait non seulement aux sœurs de Lazare, mais également aux générations qui avaient souffert parce que la tombe avait gagné et la mort avait remporté la victoire. Il considérait les plus de 4000 années de souffrance passée où les hommes étaient morts et étaient entrés dans l'éternité sans Dieu. Avez-vous bien entendu ? Ils étaient entrés dans l'éternité sans Dieu. Et il y a là quelque chose de sérieux à réfléchir. Il voyait les veuves et les orphelins qui avaient souffert parce que leur bien-aimé, leur soutien, leur avait été arraché par la mort sordide et insatiable. Il pleurait pour les générations qui avaient enduré l'aiguillon de la mort. Et c'est pour cela que Jésus pleurait ce jour-là. Ce n'était pas à cause de Lazare, car Jésus savait ce qu'il allait faire de lui. Voyez-vous, Lazare était une image des millions d'âmes qui étaient mortes au cours des âges passés. Et Jésus voyait encore sur les visages qui l'entouraient de toutes parts. Il voyait l'empreinte terrible de la peur et du désespoir de la mort et il pleurait. Il ressentait le chagrin que vous avez éprouvé lorsque vous avez déposé votre bien-aimé dans la tombe. Et il pleurait pour vous. Oui, mes bien-aimés, il pleurait pour vous. Et se tenant debout, il savait qu'il avait bien fait de venir. N'avait-il pas dit à Marthe, et cela quelques minutes plus tôt, il avait dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point à jamais. » Saint Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Donc, il pleurait parce qu'il savait qui il était la résurrection et la vie, et qu'il était venu pour souffrir pour un monde en souffrance, et qu'il le rejetait. Ce monde en souffrance, malgré tout, c'est incroyable, mais il rejetait la main tendue avec amour, lui et son message de vie. Il le haïssait et il le repoussait malgré tout son amour pour eux. Il refusait son aide et mourait dans leur péché malgré son amour. Alors, il pleurait. Il savait qu'il ressusciterait Lazare dont le corps pourtant pourrissait déjà dans la tombe. Ça, c'était un signe de ce qu'il voulait faire pour le monde entier. Mais il n'en voulait pas Il au pluriel ne l'aimait tout simplement pas. Il ne le reconnaissait pas et il ne pouvait pas les aider. Voyez-vous, Jésus ne pouvait pas les aider puisque il ne le reconnaissait pas et même il ne l'aimait pas. Comment voulez-vous aider quelqu'un à qui vous aime pas? Cependant, malgré tout, et c'est là le problème qui est intéressant, malgré tout, il les aimait, alors on comprend qu'il était triste, qu'il pleurait. Aujourd'hui, Jésus regarde le monde. Il nous voit d'une façon dont nous ne pouvons pas nous voir. Nous sommes un peuple perdu. Nous sommes une génération enténébrée. Nous sommes un peuple souffrant. Et que plus de souffrances vont encore venir. Chaque jour, chaque semaine apporte une vague de mort et de douleur. Et en une seule semaine, il y a quelque temps de cela, 150 personnes sont mortes dans un accident ferroviaire à Paris, quand deux trains se sont heurtés de front sous un tunnel. Un autre avion n'a pas pu décoller de l'aéroport de Londres et s'est écrasé avec plus de 100 passagers à bord. À Hong Kong, une terrible tornade a emporté de grands immeubles d'habitation, engloutissant des centaines d'occupants. Une importante inondation a balayé 3 États des USA. Des milliers de gens ont dû fuir la crue des eaux et beaucoup sont morts. Tout à l'heure aux Philippines, il est arrivé une catastrophe naturelle et il y en aura toujours plus. Ça ne va pas diminuer du tout. Il y a même des non-croyants qui disent, parfois sans trop y croire, mais quand même, ils en sont très conscients, ils disent le pire est à venir. Ils disent que le pire est à venir. Oui, et c'est vrai. Ces événements se passent, et nous pouvons les lire dans les journaux, nous pouvons les entendre aux nouvelles, à la radio ou à la télévision, chaque jour. Et Jésus pleure. Si nous avions seulement un tout petit peu de son amour, nous aussi, nous pleurerions à la place de simplement hausser les épaules et dire « Oh, cela a toujours existé, c'est pas nouveau, il fait plus de 50 degrés sous zéro dans certains endroits aux États-Unis, c'est rien, ça a déjà existé, puis tout cela se répète simplement. » Mes amis, Satan les a totalement aveuglés. Voyez-vous, si, je le répète, si nous avions un tout petit peu d'amour, eh bien nous aussi prendrions tout cela très au sérieux et pleurerions. Oui, ils pleurent surtout sur la dureté de notre cœur et notre totale indifférence vis-à-vis des tragédies épouvantables qui s'abattent sur cette planète. Tant que ça n'arrive pas à quelqu'un personnellement, on hausse simplement les épaules, et on se dit « oui, c'est peut-être vrai ». Quand les millions de gens qui se nourrissaient des poissons de la mer, des fruits de la mer, et que des super navires gigantesques avec des possibilités techniques des derniers cris, où ils peuvent même racler le fond des mers, c'est pas moi qui le dis, et qu'il y aura bientôt plus rien, et qu'il y aura des centaines de millions de gens qui vont mourir de faim. Ceux qui font cela haussent les épaules et disent « c'est pas notre problème, nous on veut gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas si on pourra encore gagner ». Voilà donc cette humanité égoïste. Alors que Jésus descendait de Béthanie et qu'il contemplait Jérusalem, la Bible dit, voyant la ville, il pleura sur elle. Et il disait, si tu avais connu, toi aussi, au moins, en cette journée, que les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux, car, attention, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. Et te renverseront par terre, toi et tes enfants, au-dedans de toi. Même les femmes enceintes seront déchiquetées et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de la visitation. Saint Luc, chapitre 19. Versets 41 à 44. Oui, Jésus pleurait sur Jérusalem parce qu'il voyait le malheur approcher. Il voyait la tribulation à sa porte. Il pleurait pour leurs enfants qui seraient piétinés, carrément piétinés sous les sabots des chevaux romains. Il pleurait pour des jeunes filles vierges qui seraient violées brutalement, affreusement, certaines mourant sur le coup et transpercées sous leurs yeux pour les juifs religieux qui mouraient dans leur religion. Il pleurait donc pour tout le temps magnifique qui deviendrait carrément un tas de ruines, là où il se dressait fièrement. Mais, surtout par-dessus tout, il pleurait parce que tout cela aurait pu être évité si seulement ils avaient su que Dieu les avait visités. Bien sûr, Dieu aime ce monde. Il aimait encore plus Jérusalem. Mais si nous méconnaissons le temps de la miséricorde de Dieu et que nous n'acceptons pas sa grâce, eh bien nous recevrons alors une autre visite beaucoup plus cruelle que celle de l'armée romaine. Attention. Oh, mes chers amis, Jésus pleurait-il peut-être aujourd'hui pour ce monde? C'est très possible, car ce monde va à sa perte totale. Pleurait-il au travers de vous, peut-être? Aimez-vous? Aimez-vous assez votre nation, votre famille, pour pleurer sur elle? L'amour vrai pleure parfois. Saint Paul, il a eu un aperçu des larmes de Jésus quand il a écrit « Qui Jésus, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Hébreux, chapitre 5, verset 7. Saint Paul savait que Jésus s'était adressé au Père avec de grands cris et avec des larmes. Dans le jardin de Gethsémané, il a agonisé, en effet, croyez-moi, pour un monde qui s'apprêtait à le crucifier. Gethsémané, cela signifie un pressoir à huile. C'est là qu'on presse les olives pour en extraire l'huile. Dieu doit donc nous placer dans des situations pénibles pour tirer de nos vies l'huile qui apportera la bénédiction aux autres. Mais, oh combien de larmes coulent dans notre Gethsémané! Il est possible d'aimer profondément sans même connaître la peine qui accompagne l'amour. Saint Paul, il disait, l'amour souffre patiemment. Un amour profond brisera la dureté qui encercle notre cœur et en laissera couler l'huile. Que croyez-vous? Une merveilleuse sœur en Christ, pure, droite, travailleuse, son mari, quand il reçoit sa paye, va au bistrot pour retrouver ses copains buveurs et pour presque jusqu'à 2 heures du matin boire plus de la moitié de son salaire, payant même à ses soi-disant amis leur beuverie pour rentrer chez sa sainte épouse qui aura beaucoup de peine à pouvoir même se nourrir elle-même. Attention, on aura des comptes à rendre un jour. Je dis cela pour moi. Oh oui, il faut pas avoir peur. Un amour profond brisera la dureté qui encercle notre cœur et en laissera couler l'huile. Voyez-vous, dans le Cantique des Cantiques, l'épouse, elle déclare « Je suis malade d'amour. » On peut effectivement être malade d'amour. De nos jours, on ne veut pas accepter la souffrance qui accompagne une grande affection. Nous n'en voulons que la joie, mais nous ne voulons surtout jamais la douleur. Et pourtant, c'est de la douleur que naît notre grandeur. Regardez le visage de Beethoven, c'est la vérité. Et vous verrez un homme qui a enduré une angoisse intense. Il était torturé par un amour qui lui était refusé. Cependant, de sa souffrance, sont nés certains des plus beaux chefs-d'œuvre que le monde ait jamais entendus. Un grand génie est inséparable d'un grand amour. En fait, je ne suis pas certain que ce ne soit pas une seule et même chose. Quand la sourdité frappa Beethoven, car il est devenu sourd, la jeune femme qu'il aimait tendrement de toute son âme, de tout son cœur, que croyez-vous qu'elle a fait? Elle l'a entouré tendrement, elle l'a encouragé de ses larmes? Non, non, non. Elle l'a abandonné. Oui. La musique fut sa seule consolation. Son cœur était rempli d'amour divin et il chercha au moyen de son talent à exprimer son affection. Dans les profondeurs de son âme emmurée, Beethoven a entendu les chœurs célestes et tout en marchant dans la rue, nu-tête, oublieux de tout, centré sur son monde de silence, il se mettait parfois à entamer tout à coup un chant. En d'autres occasions, il battait la mesure, se parlait à lui-même et riait tout haut. Il parcourait les bois et les champs seul, inconnu, et c'est là, à ciel ouvert, qu'il a composé un grand nombre de ses plus beaux morceaux. La célèbre sonate au clair de lune fut ainsi inspirée au cours d'une promenade solitaire. La nuit, alors, que le maître traversait les champs, secouant sa tête échevelée, le visage carrément levé, hein, c'était quelque chose de vrai, tout cela, le ciel criant à voix haute, sans être dérangé de personne. Et dans les secrets de son imagination, il voyait en quelque sorte les sons. Pour certains, voyez-vous, les sons sont des symboles invisibles de forme et de couleur. Et quand l'amour l'a méprisé, que l'incompréhension avec ses semblables a grandi, et que les poursuites judiciaires et la grande pauvreté sont venues aggraver sa misère, il s'est réfugié dans la musique, et là, sous les étoiles, il écoutait les sonates de Dieu. Pourquoi ne produisons-nous plus de grandes symphonies qui redonnent la vie à l'âme? Pourquoi, chers amis? Oui. Eh bien, réfléchissons un peu. Réfléchissons. Pourquoi notre âme deviennent-ils toujours plus confus et insignifiants? Est-ce parce que nous sommes arrivés dans une génération qui a peur de se donner? N'y a-t-il pas de grands génies parce qu'il n'y a pas de grands amours? Craignons-nous tellement la souffrance et la douleur que nous sommes incapables de libérer la qualité éternelle de l'âme qui se terre, immobile et paralysée en nous? Cachons-nous notre véritable identité sous un manteau de légèreté qui frise le vertige? Prouvons-nous le vide de notre cœur par la musique que nous apprécions? Pourquoi cette génération préfère-t-elle le vacarme tonitruant de musique par des appareils électroniques? Ce n'est plus de la musique, ça. Pourquoi ne pas aimer une musique véritable, des violons qui arrivent à nous faire pleurer carrément, des mélodies qui ressemblent à la tourterelle? En effet, Jésus pleura parce que nous avons peur de pleurer. Pensez-vous vraiment pour pouvoir accomplir quoi que ce soit de précieux sans en payer le prix fort? Nous supplions Dieu de nous utiliser, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Et la croix reste vide parce que nous n'acceptons pas la souffrance qui fera de nous son disciple. Chers auditeurs et auditrices, voici pour terminer cette étude, quelques pensées sur la souffrance. Souffrance, dague qui me perce le cœur et creuse sans se lasser son chemin acéré, jusqu'à ce que je crie et que tombent les larmes, et me demande combien de temps encore je peux crier sa douleur. Souffrance, elle va et vient toujours. Jamais je ne sais quand elle frappera de nouveau, quand je me sens libre et joyeuse, ou joyeux. Soudain, elle arrive. La même vieille souffrance, souffrance qui meurt parfois quand la joie qui l'accompagne semble dérober ou même déborder, puis en maîtresse absolue éteint la flamme de la joie tandis que j'endure son retour. Souffrance, combien de temps vas-tu encore durer? Je souffre tellement que je crains de ne pouvoir supporter plus longtemps ce tournant et ce tourment qui est éternel, me semble-t-il. Qui ne vit que de souvenirs heureux du passé, maintenant disparu, et qui seul m'importe? Souffrance, dois-je toujours payer un prix si élevé et toujours vivre avec cette douleur à moi profonde? Ô mon Dieu, ne viendra-t-il jamais un jour de bonheur où la souffrance se taira devant la gloire de ta divine présence? Ô mon Seigneur. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Ô Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. que nos âmes s'élèvent vers toi et se réjouissent dans la contemplation des biens éternels que tu promets à tes rachetés. Qu'elles se reposent dans la méditation des joies et de la gloire du ciel, de ce séjour éternel où tu seras harmonie, où tu seras amour. Ici, ô Dieu, nous devons lutter sans cesse contre le trouble, les agitations, mais le ciel est le lieu du repos. Ici, nous ne pouvons être fidèles qu'en combattant sans relâche. Oui, c'est le combat de la foi, mais dans le ciel régnera la paix totale. Ici, les tentations nous pèsent de toutes parts. Nous ne passons pas un jour, pas une heure, sans t'offenser. Mais le ciel est un état de parfaite sainteté. Ici, les épreuves, la souffrance, les larmes, les déchirantes séparations remplissent bien trop souvent nos cœurs d'amertume. Mais il y a dans le ciel un bonheur inaltérable. Ici, tout est éphémère, fugitif. Tout nous échappe et rien ne peut satisfaire pleinement nos âmes, car nos plus pures et douces jouissances, nos plus chères félicités sont fragiles et périssables. Mais dans le ciel, il y a pour l'éternité abondance de bénédictions, de bonheur et de joie. Seigneur, si dans le ciel nous devons te voir sans voile, nous devons refléter ton image et jouir de ta présence, la préparation pour le ciel doit être pour nous de te contempler des yeux de la foi. Ainsi que tu es révélé dans ta divine parole, d'être transformé par le renouvellement de notre esprit et de vivre en communion avec toi par la méditation des saintes Écritures et surtout par la prière. Puissions-nous tous, Dieu Tout-Puissant et bon, obtenir de ta miséricorde ces grâces si précieuses. Elles ne peuvent être le partage que de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est mort pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Alors donc, à lui, oui, à Jésus-Christ, avec foi, avec une confiance sans borne, et il ne nous repoussera plus jamais. Qu'à ce divin Sauveur, à toi, ô notre Père Céleste, et au Saint-Esprit, soit honneur, louange et gloire d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et mes chers auditeurs et auditrices, que le Seigneur vous bénisse, car il aime tous ceux particulièrement qui, un jour ou l'autre, dans leur vie, ont compris qu'ils étaient perdus et de ce fait, se sont repentis sincèrement, se sont humiliés, ce qui est difficile pour un être humain, orgueilleux souvent. Et maintenant, ils ont accepté la main tendue de Jésus-Christ. et ils sont sauvés pour l'éternité. Alléluia. Donc, mes amis, à demain matin, Dieu voulant, la suite de cette série qui me semble émerveilleuse. Émerveilleuse. Car il n'y a rien de plus beau que l'amour de notre Père Céleste pour nous qui étions perdus et qu'il a donné son Fils unique pour mourir à la croix, pour verser son sang précieux, pour nous racheter. C'est merveilleux. C'est même bouleversant à la fois. Et au fait, est-ce que c'est se sentir femmelette si nous versons une larme? Est-ce indigne de nous? Je ne crois pas. À bientôt, mes amis. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir.